Est-ce qu'éventuellement l'un d'entre vous ou plusieurs pourrait aider à construire des passerelles entre ce qui est traduit à partir du texte biblique par le mot prochain et ce qui a été décrit comme personne ce matin?
Parce que dans la citation que j'ai donnée de O'Donovan, manifestement, elle assimile. Hein. Donc, il dit que c'est justement quand je reconnais l'autre comme mon prochain, hein, je le reconnais aussi comme personne. Parce que ce n'est pas simplement l'être qui est proche de moi, parce que sinon, ce serait aussi mon chien ou, à la rigueur, mon ordinateur. Hein. Et donc, ce n'est pas ça dans la pensée biblique. Donc, dans le fait de reconnaître l'autre prochain, effectivement, je le reconnais comme une personne. Et dans le contexte précisément, il fait allusion en fait à la parabole du bon samaritain où il dit que Jésus renverse la question. Donc la question n'est pas « qui mon prochain ?» mais « pour qui suis-je le prochain ?» Et donc dans une reconnaissance plus... oui, disons, où j'entre dans une relation.
C'est vrai que le mot prochain a une connotation religieuse que l'on ne trouve pas, par exemple, dans les débats sous la Révolution française. Le mot prochain a une connotation très religieuse.
Ok. Et du coup, pour aller un peu plus loin, alors par rapport à la fraternité, c'est qui le frère dans la République française, par exemple?
Oui, ce sont les autres citoyens, le frère. Sous la Révolution française, on parlait des faux frères aussi. Hein, les émigrés, c'était de mauvais citoyens. On leur enlevait leur citoyenneté, même. Les nobles qui partaient à l'étranger, les prêtres réfractaires qui refusaient la constitution civile du clergé.
Est-ce qu'on a donné un cadre à ce mot de fraternité, à ce terme? Est-ce qu'on considère l'autre comme étant mon frère?
Le mot de fraternité, on l'a entendu beaucoup dans la bouche de Robespierre, donc il faut faire attention. Parce que Robespierre a fait tomber beaucoup de têtes hein, avant de mourir, en passé lui-même sous la guillotine en 1794. Ensuite, on n'entend plus beaucoup parler de la fraternité jusqu'en 1848, enfin pour ce qui est de l'espace français. Donc.
Donc sur les mairies, c'était pas marqué...
Non, la devise au sens où on l'entend aujourd'hui, la trilogie républicaine date de 1848.
Mais la fraternité en 1848 était très à gauche.
Oui, plutôt. Voilà. Oui, on parle de fraternité plutôt à gauche et plutôt dans le camp républicain.
Est-ce que la gauche reconnaissait les autres comme étant des frères communs? Est-ce que le patron était un frère?
Enfin... En 1848, on a un discours très... c'est la société... Enfin, on parle des précurseurs, des socialistes utopistes. Un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs, avaient vécu aux États-Unis. À l'époque de Louis Blanc, de Saint-Simon, de Fourier. Ils avaient vécu, certains avaient vécu aux États-Unis, dans des communautés mormons, justement. Et Saint-Simon revenait à l'Évangile. Il avait écrit un ouvrage qui s'appelait « Le christianisme, le catéchisme des industriels ». Déjà le titre, hein, c'était tout à fait révélateur. Ça va donner naissance d'ailleurs au familistère de Gaudin, à Guise, c'est pas très loin d'ici, c'est dans l'Aisne. C'est ça l'idée, le phalanstère, le familistère de Gaudin. Gaudin était né dans une famille ouvrière. Tout en étant patron, il voulait que son entreprise soit le Versailles de l'ouvrier. Il a voulu en faire un palais social. C'est très émouvant quand on visite, moi je l'ai visité il y a 2 ans. J'ai trouvé ça très très émouvant comme endroit. Je ne sais pas quelle était la spiritualité de Gaudin, je ne sais même pas s'il en avait une. Vaguement catholique, peut-être. Mais en tout cas, il était vraiment précurseur, tout en étant patron. Et il a mis en place une sorte de cité.
Paternaliste et comme étant une forme de manipulation.
Alors, on peut en faire une lecture paternaliste si on veut. Enfin, moi, depuis que j'ai visité les lieux, j'avoue que... Oui, mais tous les patrons philanthropes du 19e siècle, aujourd'hui, les syndicats, aujourd'hui, les accusent de paternalisme. Mais il y a paternalisme et paternalisme. Il y a eu un paternalisme novateur, il y a eu un paternalisme intéressé. Je pense à un patron catholique qui a mis en place des délégués du personnel, Apparemment, c'était très novateur chez lui. Au Creusot, chez les Schneider protestants, on a mis en place des délégués du personnel à la fin du 19e siècle, mais c'était pour contourner la CGT, donc là, c'est déjà plus délicat. On a mis en place des syndicats maison, en fait. Donc, il faudrait étudier chaque cas. Mais en tout cas, en 1848, il y a cette idée de la fraternité universelle, on s'aime, un peu comme en 1968, hein, les gens, comme en 1936 aussi. Je crois que c'est Jacques Marseille qui disait à cette époque, les Français ont cru qu'ils allaient s'aimer eux-mêmes, qu'ils allaient enfin s'aimer, etc. Mais c'est ça, 1848, il y a une sorte d'euphorie. Puis après, il y a la répression sanglante en juin, avec à cause des révoltes ouvrières. Et puis, c'est la réaction qui tombe. Hein. On n'en parle plus, on limite. Enfin, si, il y a toujours la Constitution qui va paraître en fin d'année. Il y a toujours cette... On proclame d'un côté, mais de l'autre côté, on va muscler la législation pour éviter qu'il y ait des révoltes ouvrières, que le péril socialiste nous guette trop. Donc on va donner à l'Église catholique des pouvoirs, la loi Falloux va lui donner des prérogatives avec l'éducation. L'Église catholique, les clercs seront présents dans les comités de l'éducation nationale pour les recrutements, pour les programmes, etc. Donc c'est... on peut proclamer d'un côté, mais c'est pas parce qu'il y a proclamation des droits qui a effectivité des droits. Et d'ailleurs, sur la Révolution française, c'est pareil. On a bien proclamé des droits qui ont été violemment bafoués tout de suite. La présomption d'innocence, la liberté religieuse, tous ces droits ont été bafoués sous la Révolution. Et d'autres, si on passe tous les articles en revue, on peut dire qu'ils ont presque tous été violés. Et petit à petit, tout de même, on affirme ces droits et on progresse, mais douloureusement.
Disons, alors le nationalisme, alors si je prends le nazisme, hein, donc, ou le communisme marxiste n'est pas mieux, ou maoïste, donc là, l'individu, très clairement, est subordonné à la nation, hein, et donc n'existe que pour servir, en fait, la nation. Et donc là, justement, c'est la négation de la dignité humaine, en tout cas de la personne, oui, dans son individualité, dans son droit. Et donc, assez logiquement, je veux dire, le nazisme arrive assez logiquement donc à exterminer justement ceux qui ne sont pas de la race. Et d'ailleurs, avant cela déjà, des handicapés, parce qu'on a formulé aussi un idéal de l'homme, et que tous ceux qui ne correspondent pas à cet idéal, évidemment, ils sont une charge, hein, pour la nation. Et donc, bon, par exemple, sur le programme d'euthanasie, d'ailleurs, qui a été mené de façon secrète, hein, donc ce n'était pas fait au grand jour, mais les arguments donnés citaient vraiment l'idée qu'en temps de guerre, en temps de difficultés, mais c'était un poids insupportable pour la collectivité, on n'avait pas assez à nourrir justement les hommes en bonne santé, donc pourquoi est-ce qu'on allait gaspiller la nourriture pour nourrir ceux qui allaient de toute façon mourir bientôt, etc. Donc, l'individu est subordonné à la nation. Et justement, alors en face, hein, c'était intéressant de. Donc là, j'ai lu disons un texte de C.S. Lewis qui justement disait c'est l'individu qui a une destinée éternelle, hein, et qui va donc survivre. Hein, donc la nation, le peuple, l'État, etc. Alors, bon, maintenant, évidemment, on pourrait le compléter et dire, mais aussi l'Église, hein, qui a une visée éternelle. Mais en tout cas, il n'y a pas de... Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un avenir pour la nation allemande ou française dans l'éternité. Bon, après, voilà, c'est peut-être des débats théologiques, mais en tout cas...
Voilà.
Après, c'est vrai que l'Église catholique, par exemple, a condamné l'action française en 1924 parce qu'elle y a vu une théologie païenne, hein, qui faisait abstraction de Dieu ou qui utilisait Dieu simplement pour le maintien de l'ordre. Chez Charles Maurras, par exemple, c'est ça. Dans son enquête sur la monarchie qu'il écrit au début du 20e, 1900, je crois, ça date de 1900, on parle de Dieu, on veut revenir au Moyen-Âge catholique, on veut remettre en place la monarchie, on veut remettre en place les ordres, mais c'est uniquement pour le maintien de l'ordre. En fait, comme disait un historien, on veut du catholicisme, mais sans le christianisme, en fait, le nationalisme. On veut du catholicisme, on veut une pyramide de commandements pour maintenir les hommes, voilà, les faire les soumettre, mais on ne veut pas du cœur du, on ne veut pas du christianisme, on ne veut pas de sauveur, parce que c'est la culture de la virilité, de l'homme fort, de, c'est ça chez Maurras, Barès et d'autres. Même si on n'est pas allé aussi loin avec les maternités du Reich en Allemagne, etc. On donnait des naissances à ces petits-enfants bien blonds, aux yeux bleus, pour garantir la pureté de la race aryenne. Bon, on n'est pas allé jusque-là chez nous, mais...
L'eugénisme, ça, c'était un programme, disons, défendu aux États-Unis. C'est pas pour la France, mais
J'ai une question. Donc, j'entends plusieurs reprises... la journée, ce mot devoir ou soumission, donc la soumission à la nation, la soumission des pyramides, donc au contrôle, ou même les castes, si on veut, en Inde. Cette notion de devoir est assez inscrite dans toutes les religions. Enfin, j'ai un peu repéré la question du devoir. Pour toutes sortes de raisons, le devoir existe. Ma question, c'est d'où est venue donc la notion de droit ? Ça vient d'où ? Comment le non-chrétien, bon, peut-être que ce n'est pas le non-chrétien à l'époque, il y avait le christianisme, mais d'où est venue la notion de droit ? Qui semble tout le contraire de ce que l'on observe, en fait, à la fois dans la société et dans les religions.
Les philosophes des Lumières développent beaucoup. Hein. Déjà Locke, à la fin du XVIIe siècle.
Quelle est la base ? Est-ce qu'ils vont trouver ça ?
Ah oui, ça, des droits.
Parce que qui donne ce droit, en quelque sorte ? C'est historiquement, d'où ça vient historiquement ? Est-ce que quelqu'un sait ?
Je ne sais pas. Le droit romain parlait beaucoup de droits, mais pas de droits de l'homme. Cette notion de droit, elle était employée chez les juristes, les philosophes. Elle s'est construite en opposition à l'État absolu aussi chez nous. Hein, parce que l'absolutisme, on disait que c'était la non-séparation des pouvoirs. Le roi avait tous les pouvoirs, exécutifs, législatifs, judiciaires. Et donc il fallait mettre en place des contre-pouvoirs, donner des droits aux individus. Considérer des individus et pas que des corps, comme on disait à l'époque, les ordres sociaux, les communautés de métiers, les communautés d'habitants, les paroisses, les universités, tout ça c'était des corps, comme on disait dans la phraséologie d'Ancien Régime. Et le roi était au-dessus des corps. Et tous ces corps étaient englobés dans le corps de la nation. Mais d'où est sortie la notion de droit exactement ? Il faudrait faire des recherches.
On parle du droit dans le sens juridique, mais c'est peut-être pas tout à fait la même chose.
Maintenant, théologiquement, alors ça répond pas à la question historique, mais théologiquement, il me semble que le droit de l'individu face au groupe est fondé, peut-être paradoxalement, dans son devoir envers Dieu. Parce que tous les devoirs horizontaux, ou disons en tout cas dans la société, d'ailleurs ça peut être vertical aussi, mais en tout cas c'est relatif hein, par rapport à la verticalité par rapport à Dieu, hein, donc sont relativisés par la dépendance de l'homme au final par rapport à Dieu. Et donc c'est de là, moi je dirais que, alors si on se place dans une perspective chrétienne, hein, que vient les droits de l'individu, c'est qu'il dépend en dernière analyse de Dieu et qu'il est donc... qui doit répondre d'ailleurs devant Dieu, et que toute instance humaine ou toute autorité humaine n'est que seconde. Alors je pense à une scène qui illustre ça très bien du film Le Dernier Jour, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, sur l'action donc, de la Rose Blanche, hein, donc ce mouvement de résistance estudiantine donc à Munich sous le Troisième Reich. Et à un certain moment, on essaye, en fait, Sophie Scholl, hein, donc on essaye de la faire disons, changer d'avis et de dire, voilà, donc il y a quand même le Führer et la nation, donc tu dois se soumettre. Et donc elle répond en disant non, ma conscience appartient à Dieu. Et donc c'est cette référence directe à Dieu hein, qui fait échapper aux déterminations.
Très proche d'ailleurs de ce que Luther disait à la théorie de Marx.
Oui, c'est vrai. Donc,
Alors si on tire la conséquence de ce que Lydia vient de dire, le droit, c'est une autre perspective sur l'obligation. Si on est dans la perspective relationnelle, c'est une obligation. Et si on est dans la perspective des règles, là, ça devient justement un droit, une loi.
Après, peut-être au niveau plus de la psychologie, de un peu toute cette vague du romantisme, il y a eu une forme de droit qui était mis en avant, c'était le droit à l'accomplissement personnel, dont on retrouve un certain nombre de choses. Et je trouve que c'est quand même une réalité qui est intéressante, parce qu'au final, quand on était en plein fin 18e, début 19e siècle, si on s'appelait Baudelaire ou autre, on avait le droit de cultiver son spleen sans devoir être hospitalisé en psychiatrie. Aujourd'hui, on fait lire un texte de Baudelaire sans dévoiler le nom à des futurs professionnels de la santé, ils vont vous dire qu'il faut appeler un psychiatre. Et donc là, il y a aussi eu une évolution des mentalités, même qui a conditionné l'histoire des psychothérapies au XXe siècle, c'est j'ai le droit de me reconstruire, de pouvoir dire qui je suis, etc. Donc là, mais on sort du champ purement juridique que vous avez évoqué pour entrer plus dans le champ de l'individu qui revient au centre.
Alors maintenant, effectivement, je pense qu'il serait intéressant de pousser plus loin donc la réflexion chrétienne sur la notion de droit. Parce qu'il me semble, mais vous pourrez apporter d'autres éléments, il me semble que la perspective principale, en tout cas dans l'écriture, ce n'est pas le droit que je revendique, mais c'est le droit que j'octroie à l'autre.
Ne faites pas aux autres ce que nous aimeriez pas.
Oui, je dirais, pour prendre un exemple alors peut-être délicat, mais tout l'enseignement sur les rapports dans le couple, c'est mari, aimez votre femme, et cette femme, soyez soumise à votre mari. C'est pas mari, faites attention que votre femme vous est bien soumise, et femme, faites attention que votre mari vous aime. Voilà. Donc, on est toujours dans ce. Maintenant, mais il faudrait peut-être trouver des exemples où il y a quand même un droit revendiqué par l'individu lui-même, mais comme ça, spontanément, ça ne me vient pas.
Dans le rapport à l'État. Dans le rapport à l'État, du moment qu'on a un droit comme citoyen, ça oblige l'État à respecter ce droit.
Oui, et effectivement, il y a par exemple Pierre qui, face au Sanhédrin, là, oppose sa liberté de conscience. Qui dit, et d'ailleurs, là, il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Et donc,
on pourrait dire que la liberté de conscience n'est pas encore un droit en tant que tel.
Mais Pierre le revendique.
Il la revendique en disant je dois le faire, mais la Sanhédrin en face n'était pas obligée de le reconnaître.
Oui, mais ensuite il est. Pardon ? Pardon ?
S'il le paye le plus fort, c'est pas un droit.
Non, mais il revendique le droit. Voilà, il revendique le droit.
Mais il n'est pas encore. Très naturellement accepté par notre.
Peut-être qu'au cas de Pierre, ce n'est pas forcément qu'on parle de liberté de conscience, mais peut-être qu'il le voit peut-être plutôt contre un devoir envers Dieu.
Oui, mais je pense.
Finalement, c'est devoir contre devoir, devoir envers les hommes, contre l'autorité religieuse, devoir envers Dieu qui forcément transcende. Donc finalement, on échappe à la notion de droit pour retomber sur la conception de devoir.
Alors, si j'en crois le serment d'Hippocrate, qui n'est pas d'influence chrétienne, il me semble que les médecins à l'époque romaine. Si le serment d'Hippocrate était le même, il me semble qu'aujourd'hui, il devait accorder des soins, même à l'indigent, en fonction de. Enfin, il devait soigner les gens, mais même l'indigent, il y avait obligation de soigner tout le monde. Enfin, je me trompe.
Le serment d'Hippocrate, c'est au 5e siècle avant Jésus-Christ.
Oui, c'est l'époque antique, donc c'est antérieur au christianisme. Donc c'était peut-être une ébauche déjà de reconnaissance du droit de l'individu d'avoir accès aux soins.
Mais alors, il y en a tout autant dans l'Ancien Testament, quand les pauvres avaient le droit de glaner, ou quand on devait leur rendre la liberté à ceux qui s'étaient mis en servage des X années. Il y avait déjà des droits qui étaient reconnus aux individus.
Justement, ma question était, je comprends qu'avec la lecture biblique, qu'on trouve la notion de droit, mais où est-ce qu'ils sont allés chercher
historiquement
les droits de l'homme au niveau
c'est
séculaire. Peut-être qu'ils ont puisé, sans le savoir, dans le dans la pensée biblique. Hein, ça, ce n'est pas la première fois que...
C'était la grâce commune en théologie. Oui. En fait.
La déclaration américaine, c'est peut-être plus que la grâce commune. Là, je pense que...
On est d'accord.
Et celui qui a rédigé la déclaration des droits de l'homme française était protestant, n'est-ce pas?
Ils étaient plusieurs, là. Hein.
Oui,
étaient plusieurs.
Mais en tout cas, un...
Il y avait Rabault-Saint-Étienne. Rabault-Saint-Étienne a insisté pour la liberté religieuse. Il était protestant. Okay. Et lui, il a insisté sur la liberté religieuse, sur l'article 10, justement. Mais les autres, il y avait l'abbé Grégoire, mais je crois qu'il était aussi un peu franc-maçon. Et puis, il y en a eu d'autres hein, qui ont réfléchi à la déclaration des droits de l'homme. Ils étaient un comité, en fait. C'était un petit comité des constituants.
Alors,
aux
si
États-Unis,
on...
oui, il y a une influence religieuse sans doute un peu plus forte. Encore que Jefferson et autres... J'étais vaguement franc-maçon, déiste et tout.
Il me semble qu'il y a peut-être une médiation qui peut aider à éclairer cette question de l'origine, mais je l'ai en hypothèse, je ne suis pas capable de donner une référence particulière. C'est, la médiation serait celle de l'appel au sujet, dont il n'a pas été question aujourd'hui. Mais d'une part, le sujet en tant qu'assujetti au roi, avec le côté passif du sujet, mais il y a une évolution dans le sens du mot sujet, qui au départ c'est substance, comme l'hypostase du côté grec, c'est ce qui se tient en dessous, et qui devient ensuite le produit d'une subjectivation, c'est-à-dire un processus actif de construction de soi, et ça donne le sujet moderne. À ce moment-là, le sujet moderne va avec l'émergence d'un droit au nom duquel je peux me positionner, avoir une posture par rapport au pouvoir à l'État. Et dans la relation médicale, c'est un peu aussi la même chose. Ce qui prime, c'est le code de déontologie, c'est-à-dire le devoir. Nous sommes formés pour réaliser des devoirs. Et le paternalisme ne tient pas compte des droits de celui qui est en face. Ce qui compte, c'est que je fasse mon devoir. Et l'évolution se fait ensuite avec l'émergence de la personne qui est en face, qui n'est pas considérée comme un enfant, mais comme un sujet qui a des droits. Et il me semble qu'il y a un parallélisme d'émergence du sujet qui va avec une prise de conscience de la place du droit.
Qui n'est pas du tout le sujet. Sous l'Ancien Régime, on parlait des sujets du roi.
Oui,
et c'est un terme... Voilà, mais c'est un terme qui est balayé sous la Révolution. On ne parle plus que des citoyens.
Et pourtant, dans l'histoire de sens aujourd'hui, le sujet ne veut absolument pas dire ça. Le sujet qui est l'acteur.
Absolument.
Mais et ça, c'est quelque chose qui est un héritage aussi de la psychanalyse,
oui,
quelque part,
absolument.
Et de Freud qui a remis le sujet au centre du débat. C'est l'émergence du sujet, comme vous dites.
C'est récent. Justement, par rapport à la psychanalyse, pourquoi est-ce qu'on entend plus les... Puisque la France est fille de la psychanalyse, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus entendu les psychanalystes sur des sujets éthiques ultra chauds comme l'homoparentalité ou même par rapport à l'avortement, ce genre de choses? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu plus de voix qui se sont élevées contre? Puisque justement, en fait, on a une autre idée de ce qu'est un individu enfant, très très jeune.
Bonne question. Je crois qu'il faudrait demander aux psychanalystes ce qu'ils en pensent eux-mêmes et on aurait droit à une réponse qui serait, à mon avis, plus longue que ce que je vais pouvoir échafauder en quelques secondes. Honnêtement, je n'ai pas trop d'idées parce que, effectivement, pour moi, dans la manière dont les psychanalystes considéraient l'enfant, le rôle de la fonction maternelle, la fonction paternelle, les débats, pour avoir côtoyé l'un ou l'autre de mes collègues psychologues qui sont plutôt en lien avec le référentiel psychanalyste, enfin psychanalytique. Certains disent effectivement, reste à l'idée de la filiation classique d'une maman, d'un papa, etc., et de dire de toute façon c'est eux qui incarnent fonction maternelle et paternelle. Et après d'autres vont aller plus loin avec une ouverture plus large en disant de toute façon c'est une fonction et c'est pas forcément un individu qui incarne la fonction. Et donc là il y a une porte ouverte à cette idée de dire même... dans un couple homosexuel, par exemple, on va dire qu'il y en a un qui sera plutôt dominant avec un côté un peu plus masculin, l'autre qui sera plutôt avec un côté maternant, et donc il y aura la fonction maternelle et paternelle. Et je pense qu'il y a eu une difficulté à prendre position parce qu'il n'y avait pas une unité de vision sur la question. Mais voilà, après, il faudrait le demander à des spécialistes de la psychanalyse et à ceux qui pratiquent ce qu'ils en pensent réellement. Et là aussi, sachant qu'on pourrait avoir des réponses aussi en fonction des différents courants et des différents auteurs.
J'ai l'occasion de contact avec les psychanalystes à travers des groupes de réflexion éthique.
Excellent.
Et ce qui apparaît, c'est quand même que si la France est aînée de la psychanalyse et de l'Église, eh bien le mouvement de contestation de la France comme fille aînée de l'Église est parallèle au mouvement de contestation de la France comme fille aînée de la psychanalyse. En clair, la psychanalyse apparaît quand même de plus en plus contestée, et l'un des éléments, l'une des raisons de la contestation, c'est que la psychanalyse, contrairement à ce qu'en disait Freud en particulier, n'est pas une science. Et dans la mesure où elle n'est pas une science, elle n'a pas voix dans la cour des scientifiques, et ce n'est que l'un des chemins par lesquels elle est de plus en plus discréditée. Et puisqu'elle est discréditée, elle a de moins en moins voix au chapitre, en particulier dans le débat bioéthique.
Oui, alors ce qui est intéressant, je pense que si on regarde un peu plus au niveau de l'histoire contemporaine mondiale, on va voir d'autres éléments qui vont aller un peu dans le sens de ce que vous dites. Il y a, me semble-t-il, il y a eu quand même une vague aux États-Unis qui a été un courant d'antipsychiatrie dans les années 80-90 qui remettait en cause tout le référentiel psychanalytique. Ce qui fait que la France a été très imprégnée, ces deux personnages clés, Jacques Lacan et Françoise Dolto. Françoise Dolto par rapport aux enfants, aux adolescents, etc. Et Lacan par rapport à toute la théorisation linguistique de la psychanalyse. Et c'est vrai qu'on raconte souvent cette petite anecdote d'un dialogue entre Dolto et Lacan, où Dolto disait à Lacan, dit « Mais monsieur, je ne comprends rien à ce que vous écrivez. » Et lui de répondre « Peu m'importe, madame, vous l'appliquez. » Bon, quand vous avez lu Lacan, vous prenez trois aspirines pour essayer de décortiquer, parce que c'est vraiment une pensée qui est d'une complexité extrême. Mais il n'empêche que, du coup, on s'est beaucoup rattaché à ces deux auteurs pour donner vraiment la vision de la psychopathologie, de l'accompagnement de la psychiatrie en France. Donc, aux États-Unis, les coups de boutoir sont venus avec l'antipsychiatrie, avec les thérapies d'orientation systémique, cognitive et comportementale dont j'ai un peu parlé, ce qui fait que ça a été largement remis en cause. Et donc, du coup, les deux pays où la psychanalyse est restée très forte, c'est la France et le Brésil. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les choses ont tendance à évoluer, c'est aussi le coût des thérapies et une logique économique. Parce que quand vous rentrez dans une psychanalyse, vous en prenez pour minimum 3, voire 4 ans. Si après, vous l'êtes vous-même psychanalyste et travaillez sous supervision, il faut rajouter encore, etc. Et il y a une certaine somme à payer. Et du coup, avec l'efficacité des thérapies cognitives et comportementales, notamment dans la prise en charge des dépendances, par exemple, où là, c'est prouvé, parce qu'en créant un effet de déconditionnement par rapport au conditionnement d'une personne à l'utilisation de drogue, a fait que cette logique économique avec des thérapies brèves, efficaces devant des thérapies complexes, incompréhensibles et inefficaces, a fait qu'on remette pas mal en cause les choses. Et puis on peut rajouter Michel Onfray derrière qui en a rajouté une couche, mais ça c'est encore... voilà.
Et la fascination, vous l'avez évoqué ce matin, la fascination qu'exerce sur les mentalités, la montée en puissance de l'imagerie fonctionnale qui sert le crédit du côté comportementaliste et pas celui du côté psychanalytique.
Quand il y a eu le livre noir de la psychanalyse qui a été pendu, effectivement, clairement, il y avait les thérapeutes cognitifs derrière, il ne faut pas se leurrer. Et je pense que là, il y a un débat d'influence. Et de toute façon, toutes les psychothérapies sont construites à coup de mouvements de balancier.
Il semblerait aussi que la psychanalyse s'adresse à un type de patient particulier et ils ne souhaitent pas, ils ne veulent pas élargir à d'autres patients, à un certain type de personnes assez cultivés ou ayant un certain bagage intellectuel, mais d'autres personnes.
Alors, oui et non.
Woody Allen, on va chez
exactement. J'ai envie de dire oui et non. Ça, c'est quand on va consulter soi-même et qu'on en fait la demande en cabinet. Quand vous êtes dans la protection de l'enfance, quand vous travaillez en institution, dans le milieu éducatif, par exemple, moi, j'ai souvent été sidéré de voir des collègues qui ne juraient que par la psychanalyse, comme s'ils étaient en cabinet, à recevoir des personnes qui étaient demandeurs, alors que des adolescents demandeurs d'une thérapie, j'ai quelques doutes sur l'efficacité comme demande au départ. Évidemment, on va trouver à un moment donné une autre manière de faire émerger une demande et d'accompagner, mais voilà.
Bon, il va falloir s'arrêter. C'était, je pense, une des meilleures tables rondes qu'on a eues. Il y avait beaucoup d'idées très intéressantes. Merci beaucoup à chacun. Et je vais passer la parole à Michael qui va apporter une petite conclusion.